Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Content d'être ensemble, même si, comme on disait, il n'y a pas tout le monde. On a des restrictions, mais on peut quand même être content de ne pas être limité à 30, à pouvoir utiliser un peu plus l'espace de la salle. Et donc, on va se pencher aujourd'hui sur un sujet que Pascal a abordé déjà il y a quelque temps. Et d'ailleurs, quand il a commencé, c'était ce que j'étais en train de préparer. Mais l'angle de vision n'est pas tout à fait le même. Et ce sera un complément, un enrichissement supplémentaire. Mais bon, ça montre que le Seigneur, il conduit les choses, il inspire. Et que c'est important d'être attentif et d'écouter, même si ceux qui apportent la parole ne sont pas du tout parfaits, ils commettent aussi des erreurs, ils ont des manquements, on n'est pas différent, mais on est un canal au travers duquel le Seigneur parle, l'un des canaux, ce n'est pas le canal principal, mais le Seigneur parle et il faut être attentif à sa parole. Alors le sujet qu'on va aborder, ce sera la sanctification. Alors, on va tout de suite essayer de définir les choses. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Il ne faut pas confondre la sanctification et la conversion. Vous savez, la conversion, c'est quand on se convertit. Se convertir, ça veut dire faire demi-tour. On avait une vie avant, on ne connaissait pas le Seigneur, et puis un jour, il s'est passé quelque chose. On a rencontré le Seigneur. Et il y a eu un miracle dans notre vie, on a rencontré la personne de Dieu, la personne au travers de la personne de Jésus-Christ, et on a fait un demi-tour. On a décidé, parce que Dieu nous a touchés, on a compris quelque chose, et on a décidé de faire demi-tour, de changer complètement l'objectif de notre vie. Avant, notre vie, c'était de satisfaire nos aspirations, ce qu'on voulait, et qui est conforme à tout ce qu'on voit autour de nous, au monde. Et on a changé d'objectif. On a décidé de suivre Jésus. Et pour la plupart d'entre nous qui sommes présents ici, le miracle s'est fait un jour. On a rencontré Jésus, et hop, notre vie a complètement changé de direction. On s'est converti. Et la question que je vous pose maintenant, est-ce que, au moment où vous êtes converti, est-ce que vous êtes devenu parfait? Non. Je vois des noms, et s'il n'y avait pas les masques, on verrait les sourires. Ben oui, on n'est pas devenu parfait. On n'est pas devenu parfait pour autant. Pourtant, il s'est passé quelque chose. On a fait un demi-tour. On a franchement fait un demi-tour. On s'est converti. On a donné notre vie au Seigneur. Mais on n'est pas devenu parfait. La sanctification, c'est le long chemin qui peut durer toute notre vie, et qui va nous amener à cet objectif. On ne l'aura peut-être pas atteint quand on mourra, quand on quittera la terre, mais il faut qu'on ait avancé. Donc cette sanctification, elle n'est pas immédiate. Il y a un travail en profondeur qui doit se faire. En fait, quand on s'est converti, le demi-tour, il s'explique par le fait que la racine du péché en nous est morte. Il y a eu cette mort en Jésus-Christ, mais il y a eu cette mort, il y a cette greffe qui a été faite. Vous savez, j'ai jamais fait de greffe dans un jardin d'arbres, mais il y en a sûrement qui l'ont déjà fait. J'ai l'impression, Marc, tu l'as déjà fait, non? Ah, je voyais Micheline qui te donnait un petit coup de coude. Oui, ben oui, quand on fait une greffe, je n'ai aucune expérience, je connais que la théorie. On prend une branche d'un arbre, et on va faire une incision dans le bon arbre, et on va venir coller cette branche. Alors, ce n'est pas tout à fait de la colle, le vocabulaire n'est peut-être pas approprié, hein. Si quelqu'un sait, il va dire. Bon, je n'ai pas l'expérience, mais en tout cas, on va rapprocher ces deux branches, et la sève du bon arbre va se mettre à couler dans la branche qui n'était pas la branche d'origine. Et le fait que la sève du bon arbre se mette à se répandre, à traverser la branche qui a été greffée, ça va donner une nouvelle nature à la branche qui a été greffée. Et il y a une nouvelle sève qui va couler à l'intérieur, qui va la transformer de fond en comble, et elle va se mettre à porter des bons fruits, alors qu'avant, elle ne portait pas des bons fruits. Cette image, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle est dans la Bible, et elle image extrêmement bien ce qui se passe quand on se convertit. Quand on se convertit, cette greffe se fait. Et on est ainsi connecté à l'arbre, au cep qui est Jésus-Christ, et la sève divine va se mettre à couler en nous, et quelque chose de nouveau va se produire. Alors seulement, c'est de la sève divine qui coule en nous, mais c'est toujours le même corps. Et c'est ce qui pose problème. En fait, le problème de cette progression ne vient pas de Jésus, ne vient pas de Dieu, il vient de nous. Parce que c'est toujours la même branche, la vieille branche qui est là. C'est toujours la même branche, c'est toujours le même corps. Mais ce corps, il est traversé, il est nourri, il est alimenté par une sève divine qui est l'essence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu qui va couler en nous et qui va nous donner une autre aspiration. Et c'est ce qui explique la conversion. Les aspirations, ce qu'on veut pour notre vie, n'a plus rien à voir avec avant. Seulement, comme c'est toujours le même corps, eh bien, on va encore faire des erreurs. On va encore avoir des manquements. Mais, on va le voir tout au long de cette petite étude, ça doit aller en diminuant. On doit avancer de progrès en progrès. Donc, cette sève qui coule va nous transformer peu à peu. Mais cependant, je veux que les choses soient bien claires. La sanctification n'est pas du rafistolage du vieil homme, de la vieille nature que nous étions. Ce n'est pas ça du tout. Sinon, on pourrait accéder à la sanctification sans Jésus-Christ. Mais ça, c'est faux, c'est un mensonge. La sanctification n'est pas du tout du rafistolage de notre ancienne nature, du vieil homme. Elle est une construction nouvelle sur une nature nouvelle. Quand on se convertit, la nature qui est en nous, elle devient nouvelle, c'est biblique, on devient une nouvelle création, et c'est sur cette nouvelle création que Jésus va construire un nouvel édifice, celui que nous allons vivre, dont nous allons expérimenter la croissance tout au long de notre vie avec Jésus-Christ. Et cette sanctification, elle est essentielle, parce que dans Hébreux 12, 14, il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Ça veut dire que si on s'arrête au tout début, eh bien, il manque un grand bout de chemin et on ne verra pas le Père. Sans cette sanctification, nul ne verra le Père. Alors, je viens déjà d'en parler, on va lire dans Romains, chapitre 6, verset 1. Alors, il y aura beaucoup de versets, vous n'êtes pas obligé d'y aller à chaque fois, mais on va les lire parce que c'est important. On va parcourir des versets qui vont nous montrer que dans cette démarche, dans ce parcours de sanctification, on a besoin de Dieu, parce que sans lui, on ne peut pas le faire. Mais Dieu a besoin aussi de notre coopération. Sans notre coopération, le travail ne va pas pouvoir se faire. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Donc là, l'apôtre Paul, il pose une question. Est-ce qu'il est possible de continuer de vivre dans le péché en s'étant converti? Ben, si on le fait, on n'a rien compris. On n'a rien compris du tout. On ne peut plus aimer le péché, pratiquer le péché en étant converti. Il y a une différence entre commettre un péché et pratiquer le péché. Commettre un péché, c'est, il peut arriver qu'on pêche, hein, parce que ben, on est toujours dans le même corps. Pratiquer le péché, c'est le faire de façon permanente avec plaisir. Le monde sait ce qu'il fait. Le monde pratique le péché. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons plus, et ce n'est pas que ça nous est interdit, mais si on a reçu cette sève nouvelle, on ne peut plus aimer pratiquer le péché comme on le faisait avant. Ça ne correspond plus à la nature divine qui coule en nous. Et si on s'aperçoit qu'on éprouve encore du plaisir à pratiquer le péché, alors il faut se poser des questions. Ça ne veut pas dire que c'est fichu, hein. Mais dans notre vie, il y a peut-être des choses inconsciemment qu'on continue de pratiquer. Et peu à peu, le Seigneur va mettre le doigt dessus pour nous amener à cette perfection. Mais fondamentalement, on ne peut plus, il n'est pas normal d'aimer pratiquer le péché. Alors quel péché ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Le mensonge, la dissimulation, détourner. Il y a plein de choses. Je ne vais pas m'amuser à tous les citer. Chacun peut réfléchir, méditer sur lui-même. Mais il n'est pas normal de continuer de pratiquer le péché si on a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais le point de départ, c'est Dieu qui l'a fait. Il nous a appelés, il nous a touchés, on a fait demi-tour, il a fait couler en nous, c'est lui qui a fait la greffe, parce que nous, on n'avait pas ce pouvoir de le faire. On était loin de lui, c'est lui qui a fait la première démarche. Mais ensuite, il a besoin de notre coopération. Et on va voir toute une série de textes bibliques qui nous montrent que, certes, on a besoin de Dieu, mais pour que le travail puisse se faire de transformation, il est nécessaire que nous, on coopère. On va aller regarder dans Hébreux. Hébreux chapitre 12. Versets 1 et 2. Alors, on va le mettre dans le contexte. Juste avant, Hébreux 11, on le connaît tous, c'est l'hymne à la foi. On est donc, on vient de parcourir toute une série d'exemples de l'histoire biblique, de personnages qui se sont illustrés par une foi qu'on aurait envie de dire un peu hors du commun, mais qui est tout simplement la foi que nous, on devrait avoir aussi. Hébreux 12, et on arrive ainsi juste après au chapitre 12. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est toute la nuée qui vient d'être décrite de tous ceux qui sont exemplaires par leur foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. » On pourrait s'arrêter là. On va regarder. Alors, on ne va pas faire un cours de français, mais quand même, il y a des verbes. Les verbes, c'est ce qu'on fait. C'est l'action. C'est ce qui décrit, ce sont les mots qui décrivent les actions. Et on va essayer de les relever ensemble. Le premier, rejetons. Je l'ai mis en gras. rejetons. Rejetons quoi? Tout fardeau. C'est une action qu'on doit faire. Et d'ailleurs, Jésus le savait qu'on avait cette tendance à porter des fardeaux. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Je crois aussi, hein. Ouais. On a une fâcheuse tendance à porter des fardeaux. Pourtant, Jésus, il le sait, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous soulagerai. S'il a dit ça, c'est pas parce qu'il se dit, bon, on va leur dire ça comme ça. Il sait qu'on a cette tendance à porter des fardeaux. Ça fait partie de la nature humaine. Et ça, ben, il faut arrêter. Ça veut dire, on va peut-être dire, ben ouais, mais moi, j'y arrive pas. Mais là, c'est rejetons tout fardeau. C'est de l'impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. On doit le faire. Et je pense que si ça nous est demandé, inspiré par le Saint-Esprit, c'est parce que c'est à notre portée. Le Seigneur ne nous demande pas des choses qui sont inaccessibles pour nous. Alors, c'est vrai, c'est facile à dire. Hein. Mais on doit tendre vers cela. On a cette fâcheuse tendance à porter des soucis, à s'ajouter de la pression. Et moi, je suis un mauvais exemple là-dessus. On s'ajoute beaucoup de choses sur le dos. Et c'est un défaut. Et il faut y travailler. Parce que, normalement, on devrait rejeter tout fardeau. Et ce n'est pas tout. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il était bien conscient que ce péché, c'est un manteau qui nous enveloppe si facilement. On tombe si facilement dedans. On doit rejeter ces deux choses. On doit y travailler, ça doit être notre objectif. Si on voit ces deux choses arriver vers nous, on doit développer ce réflexe, je dois les rejeter. Ce n'est pas ce qui doit venir dans ma vie. Ce qui doit venir dans ma vie, c'est la présence de Jésus-Christ. Et pas ça. On n'a pas été destiné à ça. Le Seigneur ne nous a pas sauvés, ne nous a pas greffés sur le bon olivier pour porter des fardeaux et nous laisser envelopper par le péché. Donc, on doit refouler ça. Et on va regarder le verbe suivant. Courons. Et comment? Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et quelle est cette carrière? Ben, c'est la carrière de la sanctification. C'est la carrière de s'approcher toujours plus de notre Sauveur. On doit s'approcher de lui, courir. Et ça rappelle un autre verset de l'apôtre Paul, hein, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours pour tenter de remporter le prix. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir dans ce chemin de la sanctification qui va nous amener à connaître, à être de plus en plus proche de notre Sauveur pour avoir sa nature toujours plus prédominante en nous, qui fera qu'on sera capable de rejeter les fardeaux, de rejeter le péché et d'avancer dans cette carrière. Et comment on doit le faire? Premièrement, avec persévérance. Deuxièmement, en ayant les regards fixés sur Jésus. Donc là, on voit bien le mélange que c'est Jésus qui va le faire. Mais si nous, on n'adopte pas la bonne attitude, si on n'a pas les regards fixés sur Jésus, on ne va pas y arriver. C'est nous qui devons avoir les regards fixés sur Jésus. C'est notre part. Si on ne le fait pas, si on garde tout le temps les yeux en bas, sur nous-mêmes, sur nos manquements, on ne va pas avancer sur ce chemin de la sanctification. C'est notre part. On doit rejeter, on doit avancer avec, courir. C'est plus que avancer, hein. C'est courir avec persévérance en ayant les regards sur Jésus. Et on va continuer parce que la suite, elle est intéressante. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection? Alors, dans certaines traductions, c'est marqué qui suscite la foi et qui est le consommateur de notre foi. Mais consommateur, j'ai cherché dans le texte original, c'est pas du tout le sens du consommateur qui va manger notre foi comme nous, on est dans une société de consommation. Hein. En fait, le bon sens, c'est de qui mène à la perfection notre foi. C'est Jésus qui va mener notre foi à la perfection, mais on doit garder les regards sur lui. Vous voyez, c'est un travail qui se fait en coopération avec Dieu. Il fait ce qui n'est pas à notre portée, mais nous, nous avons à faire ce qui est à notre portée. Et si on ne le fait pas, il va manquer la moitié des choses. Et s'il manque quelque chose, il n'y a rien. On a notre part à faire dans ce chemin. Ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est Jésus qui suscite la foi. C'est lui qui induit la foi. C'est lui qui va produire en nous les choses. Mais nous, nous devons garder les yeux sur lui et nous devons ne pas oublier ces verbes d'action. Rejeter, courir, garder les regards sur lui. On va continuer de lire dans 1 Thessaloniciens, donc c'est quelques livres avant, 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Thessalonique. On pourrait prendre, il émet des souhaits, de la volonté, des vœux pour eux. Et au verset 12, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et il continue, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. On reviendra sur la suite un petit peu plus tard. Pour qu'il affermisse vos cœurs. Que l'apôtre Paul, il fait des sacrées phrases. Hein. Quelquefois, elles sont très longues. Mais alors, les mots, ils ont été extrêmement pesés. Les phrases, elles sont extrêmement riches. Et là, on va regarder toute la richesse. Qu'il affermisse vos cœurs. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Sainteté, sanctification, c'est des mots de la même famille. Hein. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père. C'est une description un peu plus précise de l'objectif qu'on doit poursuivre dans notre vie. Et la barre, elle est haute. Hein. Irréprochable dans la sainteté devant Dieu. C'est haut, hein. Irréprochable. Ça veut dire que il n'y a plus de reproches à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est déjà à ce stade-là, mais c'est l'objectif qu'on doit poursuivre. Et c'est chaud, hein. Mais c'est écrit et c'est ce qu'on devrait, c'est ce qu'on doit être en train de poursuivre. Irréprochable en sainteté. Et de quoi on a besoin pour atteindre cette irréprochabilité? Ben, on a besoin, comme l'apôtre Paul le dit, que Dieu affermisse nos cœurs. Ça, c'est la part que Dieu peut faire. Il va affermir nos cœurs. Mais si nous, on ne garde pas les yeux, le regard fixé sur lui, si on ne fait pas les, si on ne met pas en œuvre les verbes d'action dont on a parlé, le travail ne va pas se faire. La branche qui a été greffée, elle a sa part à faire. Si elle ne le fait pas, la sève a beau couler, il n'y aura pas de fruit. Ça ne va pas se faire. Nous avons besoin de Dieu, et Dieu, pour accomplir son œuvre en nous, il a besoin de notre coopération. On va continuer dans Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'apôtre Paul conjure les chrétiens de Thessalonique de marcher de progrès en progrès. Ça veut dire de progresser. Ça veut dire que si on regarde notre chemin passé, s'il y a 10 ans, on était déjà au stade d'aujourd'hui, ben c'est qu'il y a un problème. On doit voir une dynamique de progrès dans notre vie chrétienne. S'il n'y a pas de progrès, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul conjure, ça veut dire que bon, ben, il insiste, quoi. Il faut qu'il y ait des progrès. S'il n'y en a pas, ce n'est pas normal. Donc, il doit y avoir une dynamique de progrès permanent dans notre vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où ben, la progression, elle est moins visible. Il y a des progrès qui se font dans le secret, à l'intérieur du cœur. Et puis, un jour, ça jaillit. Mais ça, chacun sait ce qui se passe en lui. Ce n'est pas forcément visible pour les autres. Mais en regardant nous-mêmes à l'intérieur, il faut qu'on regarde objectivement si on est toujours dans cette dynamique de progrès par rapport à la sève qui coule en nous, par rapport au corps qu'on traîne. Est-ce qu'il y a cette dynamique de progrès? Ou est-ce que c'est plat? Si c'est plat, on n'est plus en train de courir. On n'est plus dans le verbe d'action de tout à l'heure. On est des athlètes. Et un athlète qui arrête l'entraînement, c'est un athlète qui régresse. Il perd ses capacités. Son cardio ne va plus être si bon, sa musculation ne va plus se développer. Rachel le sait, hein, elle s'entraîne beaucoup. Et ben oui, mais on est comparé à des athlètes. Et ça doit être notre priorité. On doit s'entraîner, on doit progresser, on doit toujours avancer. On doit toujours vouloir avancer. Et si on arrête ça, ce n'est pas normal. On doit toujours progresser. On va continuer dans 1 Thessaloniciens, juste quelques versets plus loin. C'est quand même pas mal fait, hein. C'est bien regroupé. On trouve beaucoup de choses. Ben, y a des églises dans lesquelles c'est riche, hein. L'apôtre Paul écrivait beaucoup de choses. Et là, justement, l'apôtre Paul, il va détailler un petit peu plus ce que 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 7, on va lire de façon un peu plus approfondie ce que c'est que la sanctification. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui doit changer dans notre vie? Ah, on va regarder. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On a là des exemples. Alors on va pas s'étaler là-dessus, mais chacun doit regarder en lui-même s'il ne traîne pas encore des choses dans ces directions-là. Est-ce que je possède mon corps dans la sainteté et l'honnêteté? Est-ce que dans ma vie, tout est honnête? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu tordues? S'il y en a, on est appelé à mettre tout en règle. La convoitise passionnée comme font les païens. Quand on regarde autour de nous, et l'Ecclésiaste le dit très bien, il y a plein de choses qui sont faites par jalousie de l'autre. Ah, je veux une carrière professionnelle au-dessus de mon voisin, au-dessus de mon frère, au-dessus de, je veux mieux que lui. Ah, il a une belle bagnole, mais moi j'en veux une mieux. Mais je vous assure, dans le monde, il y a beaucoup de courses folles qui sont menées de la sorte. Ça s'appelle la convoitise passionnée. On convoite ce que l'autre il a, on veut l'avoir, et on va dépenser une énergie phénoménale pour réussir à l'avoir, avoir plus que lui. Et si jamais il a changé entre-temps, faut retaper plus haut. Mais c'est usant, ça. Est-ce qu'on est appelé à ça? Qu'est-ce que les biens terrestres? C'est vrai qu'on a besoin. On en a besoin. Mais il faut avoir ce dont on a besoin. Ce qui est au-dessus, c'est superflu. Et notre objectif, est-ce qu'il est d'avoir ce qui est de mieux dans le monde? Est-ce qu'on poursuit ces objectifs-là? Alors, on est obligé d'user du monde, mais on doit user du monde comme n'en usant pas. On en a besoin pour vivre, on a bien besoin d'une voiture, on ne peut pas faire sans. Le monde a été, nos politiques, ils ont construit une société, et d'ailleurs ils nous reprochent aujourd'hui d'utiliser la voiture, mais c'est eux qui ont construit cette société, ce n'est pas nous. Et on en a besoin. On a besoin d'une maison pour se loger. On a besoin d'avoir du chauffage pour se chauffer. Il faut qu'on aille faire nos courses pour manger. Mais est-ce qu'on a notre cœur attaché à tout ça? Est-ce que c'est l'objectif de notre cœur, de notre vie? Est-ce qu'on y met toute notre énergie? Ou est-ce que, on le fait parce qu'il faut. Mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qu'on poursuit au fond de nous. Ce qu'on doit poursuivre au fond de nous, c'est la carrière dont on a lu tout à l'heure quelques mots. La carrière de la sainteté, la recherche de cette pureté, de cette lumière, de ce que l'objectif que Dieu nous a donné. On ne s'est pas converti pour vivre dans le monde comme le monde. On s'est converti pour vivre de plus en plus proche de Christ. Et c'est ainsi qu'autour de nous, les gens sont éclaboussés par la personne de Jésus-Christ qui croit, qui grandit en nous. On ne court plus après les choses du monde. on ne doit plus courir après ces choses-là. Elles sont nécessaires, mais notre cœur n'y est plus attaché. On ne court plus après ça. On a changé de vie. Dans 1 Pierre, alors je récite dans ma tête, hein, 1 Pierre, Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Pierre, chapitre 5, donc première épître de Pierre, chapitre 5, au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ça, c'est l'objectif qu'on doit poursuivre. Et ces versets-là, c'est Jésus qui va les faire en nous, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas les yeux fixés sur lui, si on continue de courir après la réussite du monde, on n'aura pas ça. On ne pourra pas le vivre. On ne peut pas courir de lièvre. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On doit choisir. Et il faut qu'on choisisse. On va continuer toujours dans l'épître de Pierre, au chapitre, dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On a encore un verbe d'action, en fuyant. Ce dont je vous ai parlé, la convoitise dans le monde, toutes ces choses qui vont nous consommer plein d'énergie, qui vont nous pourrir la vie, il faut les fuir. C'est encore un verbe d'action, et là, il n'est pas écrit que Dieu va produire en nous la fuite. C'est un ordre. On doit fuir cette convoitise. Et cette fuite, moi, ça me fait penser à Joseph, qui s'est trouvé dans une situation délicate pour un jeune homme, avec une femme qui voulait coucher avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fui. De la même façon, on doit fuir cette convoitise. Pas forcément la convoitise sexuelle. Ça peut être la convoitise des biens du monde, la convoitise de l'argent, la convoitise de la maison la plus grande possible, la convoitise d'une voiture la plus belle, mais il y a tellement de convoitises différentes qu'il est possible d'avoir. Et le monde est spécialiste pour nous présenter des choses alléchantes, pour nous faire croire qu'on en a besoin. C'est l'objet de la publicité. Et en plus, en ce moment, avec Noël qui approche, on nous fait défiler des tas de choses qu'on peut acheter. Et ça suscite la convoitise. Et il faut fuir cette convoitise. Elle nous fait changer d'objectif. Elle nous induit en erreur. Elle va nous faire poursuivre quelque chose qui n'est pas l'objectif que les chrétiens doivent poursuivre. On va continuer dans la suite où on va encore découvrir des verbes d'action qui sont de notre ressort, qui sont de notre responsabilité. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, et là, accrochons-nous, hein. À cause de cela même, C'est le verset juste après, hein, celui qu'on a lu tout à l'heure. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est un sacré programme. Hein. Et par quoi s'il est introduit ce programme? Par la démarche, par le moyen de comment on doit faire. Faites tous vos efforts pour joindre toutes les choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Faites tous vos efforts. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Si c'est marqué, c'est parce que ce n'est pas facile. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts. Ça veut dire que si je reste sur ma chaise et que je dis « Seigneur, fais ça, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça », alors que dans la Bible, c'est marqué que c'est moi qui dois le faire, est-ce que vous pensez que le Seigneur va le faire à notre place? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'on a notre part à faire. Et si le Seigneur nous le demande, c'est parce qu'il sait qu'on peut le faire. Il n'a pas créé des robots, il a créé des êtres humains, les êtres humains que nous sommes. Il nous a donné une intelligence, il nous a donné beaucoup de capacités. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Quelque part, on lui ressemble. On a du potentiel. Et parce qu'il nous a créés à son image, on a aussi une énorme responsabilité sur la vie que nous menons. Et ça, il faut que ce soit bien clair. Quand on passera devant Dieu, on aura à rendre compte. Même si qu'on se dit, bah ouais, mais moi je suis sauvé, mais il y a un tribunal de Christ. Hein? Et on aura des comptes à rendre, c'est sûr. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que les textes sont clairs. On a notre part à faire. Et je pense quand même que pendant notre parcours terrestre, on prépare notre vie céleste. On prépare notre éternité. Et il faut investir pour là-haut. Faites tous vos efforts. On doit donc faire des efforts. Alors on me dira peut-être, bah ouais, mais on est sauvé par grâce. Hein. C'est vrai qu'on a été sauvé par grâce. Le demi-tour, il ne nous est pas dû. C'est Dieu qui l'a suscité, c'est Dieu qui l'a produit. C'est lui qui nous a touchés un moment dans notre vie. Mais la suite, elle nous incombe. On a des choses à faire. Et ce matin, je vous en ai étalé une partie. Je ne prétends pas avoir tout mis, hein, mais on a notre part et on va encore continuer, si vous le voulez bien, dans Jean, donc dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Et ça ne s'arrange pas hein, dans ce que je vais dire. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça rejoint ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, la pratique du péché. Ce n'est pas possible d'aimer pratiquer le péché si on est né de Dieu, si la greffe s'est faite, parce que la nature est devenue différente. On n'a plus les mêmes aspirations. Et on continue, après le point virgule. Mais celui qui est né de Dieu, et là c'est vraiment à lire, hein, se garde lui-même. Ouf. On peut lire ça comme ça à la volée, hein. Mais si on regarde vraiment le sens des mots, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Ouf. Ça a un sacré sens, hein. Ça veut dire que c'est vrai que Dieu nous garde, mais là, il nous est demandé de nous garder aussi, hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer à faire n'importe quoi. Et regardez la suite. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et le « et », je pense qu'il y a une, c'est au sens où il y a une, c'est une conséquence. Comme on se garde nous-mêmes, alors le malin ne nous touche pas. Combien de chrétiens on entend dire « Oh, c'est le diable, c'est à cause du diable ». Alors c'est vrai qu'il est coupable de beaucoup de maux, mais peut-être pas de tout ça. Parce que si nous ne nous gardons pas, c'est sûr qu'il ne va pas se priver de nous pousser dans le mal. Mais ces versets, ils sont clairs. C'est nous qui devons nous garder. Si on se laisse tenter, qu'est-ce qui va amorcer la tentation? C'est la convoitise qu'on va laisser agir en nous. Il y a bien des versets qui en parlent de ce mécanisme du péché et de son influence sur nous. Mais là, il nous est demandé de nous garder nous-mêmes. Et si on ne se garde pas, c'est notre démarche, c'est notre rôle. Si on ne se garde pas, ben le malin va nous toucher. On n'a pas fait notre part. Mais d'accord, je ne tords pas le sens, hein. Ça veut bien dire que les choses, certes, c'est Dieu qui va susciter la foi, qui va susciter les choses en nous, qui va les mettre en route. C'est lui qui va nous accompagner dans notre démarche. Mais la démarche, on doit l'alimenter, on doit la poursuivre, on doit la continuer, on a notre responsabilité. Et donc, nous devons nous garder. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, hein, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Lui-même le dit aussi, « Garde ton cœur ». Il n'a pas dit « Je vais garder ton cœur, tu sais ». Non, garde ton cœur. C'est toi qui dois le garder. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu sais reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Et tu as la responsabilité permanente de choisir ce que tu vas faire avec ton cœur, avec tes yeux, avec ton corps. Et on ne peut pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est nous qui choisissons. Et là, les mots sont clairs. C'est nous qui devons nous garder. On va terminer. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est clair, hein? Si on est encore attiré par les choses du monde, c'est qu'il y a un problème. Ça ne devrait pas. Et donc, s'il y a encore ces choses, ben, il faut qu'on les détecte et qu'on se mette devant le Seigneur. Et si on le confesse, je suis intimement convaincu que le Seigneur va nous en délivrer. Mais si on ne fait pas cette démarche, le Seigneur ne va pas nous forcer. On va rester avec ça, alors il va nous faire cheminer, il va nous faire traverser des déserts. Mais si on reste entêté et têtu, on va rester avec ces choses qui ne sont pas en règle dans notre vie. Le Seigneur ne va jamais nous obliger. On a notre part à faire. Et je voudrais terminer par lire juste quelques versets, parce que je vois que le temps presse. Nous savons tous que nous sommes membres du corps de Christ, et ce corps de Christ, c'est la fiancée, c'est l'Église qui se prépare à un mariage. On est d'accord ? Nous sommes cette fiancée qui se prépare à la rencontre suprême de son époux qui vient vers elle. Et cette rencontre, ce mariage, il va se faire quand Jésus va revenir chercher son Église. Et je crois que si on regarde le monde dans lequel on évolue en ce moment, on a toutes les raisons du monde, c'est juste une expression, de se dire « Jésus, il est à la porte ». On dirait quand même qu'il n'y en a plus pour longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver si on regarde les événements climatiques, les mœurs, tout ce qui est en train d'arriver qui fait penser à Sodome et Gomorre. On arrive dans cet état de, au niveau mondial et surtout européen, d'un état moral qui est sacrément décadent. Et ça ressemble à Sodome et Gomorre. Et si on regarde tous les indicateurs par rapport au climat, à l'eau, et l'eau, il y en est question, que les hommes rendront l'âme de terreur au bruit de la mer et des flots. On est en train de comprendre aujourd'hui, bah oui, tout fond, l'eau monte, et ça va être terrifiant ce qui va arriver. On a des tremblements de terre, il y en a de plus en plus. Alors, il y en a qui sont causés par l'être humain, Strasbourg, vous avez entendu, mais je ne parle pas de cela. Il y en a de plus en plus. Et les famines, les guerres, les bruits de guerre, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on est en paix. Ça se soulève de partout. Et tout laisse penser que Jésus est à la porte. Et je voudrais attirer notre attention dans 1 Thessaloniciens 3:13. On l'a lu tout à l'heure et j'ai dit qu'on y reviendrait à la fin. Juste la fin. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Je m'étais arrêté à la virgule parce que j'avais gardé ça pour la fin. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il faut qu'on soit prêt, qu'on soit une fiancée prête à épouser son bien-aimé, une fiancée qui est prête, qui est sainte, qui s'est parée, qui est toute prête. Et si on regarde dans Hébreux 10, je vais juste le lire, Hébreux 10, 25, « Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Le jour, c'est quel jour ? Ben c'est le jour du Seigneur. Et on le voit s'approcher ce jour. Et quelle ne doit pas être notre sainteté en attendant ce jour du Seigneur ? Il faut qu'on soit prêt, qu'on s'active à se préparer pour ce grand jour qui arrive, du retour de Jésus-Christ, parce que notre objectif, c'est de partir avec lui. Enfin, je l'espère, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et j'ai vraiment envie qu'on y parte tous, qu'on soit tous enlevés, qu'il n'y a personne d'ici qui reste. Mais si on veut partir, il faut être prêt. Si on n'est pas prêt, on sera comme ces vierges folles qui n'étaient pas prêtes et qui n'ont pas été enlevées. Et pour se préparer, je vous ai donné un aperçu du programme à suivre. C'est le programme qui est à notre portée parce qu'il nous est demandé. Il demande des efforts, c'est sûr. Mais si Dieu nous les demande, ces efforts, c'est parce qu'on est capable de les faire, de les mettre en œuvre, de les exécuter. Alors voilà, on a un beau programme à faire et il faut qu'on se prépare pour ce grand jour des retrouvailles, enfin des retrouvailles, où on va rencontrer notre époux. On va se marier avec lui et on est comme cette fiancée qui est heureuse, qui attend impatiemment et qui ne s'occupe plus des choses d'ici-bas. Parce que ça, ça va nous faire perdre plein de temps, ça va nous disperser et ça va nous faire oublier l'objectif essentiel. Alors, préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ. Préparons-nous sur ce chemin de la sanctification. Recherchons cette sanctification. Mettons en œuvre tout ce qu'on a lu et soyons prêts pour ce grand jour. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu parles à nos cœurs et tu m'as parlé à moi dans tous ces versets que j'ai parcourus. Et Seigneur, donne-nous de mettre en pratique ta parole. C'est ce que tu nous demandes, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux qui, en quittant la salle, oublient tout ce qu'ils ont entendu. Mais que vraiment, on mette en pratique ta parole et qu'on mette tout en œuvre sur ce chemin de la sanctification pour nous approcher de l'objectif, nous approcher de toi. Merci Seigneur, parce que dans tout ce chemin, tu nous fais grâce. Tu pardonnes nos manquements, mais tu attends de nous qu'on fasse notre part. Et donne-nous de l'accomplir, Seigneur. Amen.